prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, l'Église, quelle image aujourd'hui?
Lu ce texte, mais il va nous introduire dans une réflexion d'importance ce matin, comme à chaque fois naturellement, sur le pourquoi de l'Église. Voilà. Quel sens et quelle signification peut avoir l'Église aujourd'hui? Quelle image l'Église a devant le monde, dans notre monde moderne? Qu'est-ce que cela peut représenter aujourd'hui? Alors, le livre des Nombres, dans le début de notre Bible, au chapitre 10 et au verset 29, voilà ce que je partage avec vous maintenant. Nombres, chapitre 10, verset 29. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. » Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et puis également le verset 32. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Alors c'est une introduction somme toute originale pour parler de l'Église, mais je voudrais quand même préciser que le peuple d'Israël sortant d'Égypte porte un nom. C'est l'assemblée des enfants d'Israël. Voilà. C'est important parce que le mot assemblée, vous comprenez le sens dans toute sa profondeur. Et nous voyons qu'il s'agit de Moïse qui dit à un homme qui n'est autre que son beau-père, « Eh bien, viens avec nous et nous te ferons du bien. » Et ce que je voudrais dire, c'est que l'Église a pour vocation de faire du bien, pas du mal. Là, la première chose à dire. Parce que quand on va dans une église et qu'on en ressort cassé, en miettes ou en morceaux, dérangé, perturbé, c'est pas le but. Là, on a oublié quelque chose, il y a quelque chose qui a été zappé au passage. L'église, elle est faite pour faire du bien dans l'assemblée du peuple d'Israël. Dieu bénissait pour que les enfants du peuple d'Israël se fassent du bien. Viens avec nous, nous te ferons jouir du bonheur que l'Éternel a promis de nous faire aux uns et aux autres. Et puis une deuxième lecture maintenant, beaucoup plus connue, familière, dans l'évangile de Matthieu, ce sont les paroles mêmes de Jésus au chapitre 16 et au verset 18. Et là, nous avons aussi, eh bien, attiré une réflexion pertinente, me semble-t-il. Le Seigneur nous y a conduit à réfléchir sur la question. Alors, Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Alors, il parle à Pierre, hein, mais bon. C'est bien. « Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » La première chose que nous remarquons, c'est qu'il y a un instant, nous avons parlé de l'assemblée des enfants d'Israël, et là, nous parlons de l'assemblée des enfants de Dieu, c'est-à-dire l'église. Je voulais faire cette relation parce que je pense qu'elle est nécessaire. Il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de choses qui n'aient été déjà portées en germe et en bouton dans l'Ancien Testament qui n'éclos dans le Nouveau Testament. Et on retrouve naturellement la même pensée. Et Jésus va dire, non seulement à Pierre, mais à nous, et il nous le dit aujourd'hui, il nous dit, mais je bâtirai mon Église. Ce n'est pas une construction architecturale humaine, mais c'est quelque chose qui est véritablement, eh bien, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous avez remarqué avec moi, il est élu, le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et dans les sociétés humaines, depuis des siècles et des siècles, il y a quelque chose qui a demeuré, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les empires se sont effondrés. Les grandes entreprises humaines, d'une manière ou d'une autre, les philosophies et tout ce que vous voudrez, les grandes doctrines, sont tous passées les unes après les autres, mais il y a quelque chose qui est resté. Il y a une entité qui est restée à travers les temps, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors peut-être que c'est difficile aujourd'hui à la voir. Comment est-elle? Où se trouve-t-elle? Quelle image a-t-elle? Eh bien, c'est de ce dont nous allons parler, là, d'ici quelques instants. Je voudrais toujours dire tout de suite, c'est que l'Église n'a pas cette vocation moralisatrice qu'on veut bien lui donner. Mais son éthique morale et spirituelle, parce qu'elle est spirituelle avant tout, eh bien, est véhiculée et elle passe par chaque disciple qui la compose et l'inspiration de chaque disciple s'inspire de celui qui en est le sauveur et le maître. Et c'est ce qui nous fait rappeler et nous dire quand Jésus affirme « Je bâtirai mon Église ». Alors il a choisi des hommes pour cela. Et vous allez voir qu'il n'a pas choisi des anges, qu'il n'a pas choisi des saints au sens où communément nous avons l'habitude de penser. Il n'a pas choisi des super-hommes. Non, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses qui sont viles pour en faire finalement eh bien là les emblèmes et les porteurs de sa sainteté. Et c'est ça justement ce qui est troublant. Parce que si nous regardons qu'aux choses que nous avons l'habitude, d'une manière très classique, alors là nous pouvons dire mais c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Alors il y a une question fondamentale qui se pose, et je la repose devant vous en introduction, pourquoi l'Église? Sa raison d'être et sa mission, naturellement. Dans les temps où beaucoup de chrétiens s'interrogent, dans ce monde de migration, où les gens vont d'un côté ou d'un autre, ils vont, ils viennent, ils reviennent, ils repartent, etc. Hein, on a l'habitude parce que c'est cela, mais je voudrais vous dire que dans l'immigration, ça a toujours existé, dans le phénomène, phénomène de l'humanité. Alors, beaucoup de gens sont prêts à dire, mais connaître Dieu, moi je crois en Dieu, connaître Dieu, suivre, obéir et ressembler à Jésus, d'accord. En sachant que le Saint-Esprit est bien là et pour nous guider si nous lui demandons. Et beaucoup de gens se contentent de ça. Je crois en Dieu. Je lis la Bible. Je fais mes devoirs de conscience, religieuse ou autre. Et beaucoup de gens s'arrêtent là en disant, mais ça me suffit. Pourquoi aller dans une église? Pourquoi nous attacher, finalement, à un lieu particulier, parce que des lieux, il y en a, hein. Des temples, des églises, des basiliques, des cathédrales, il y en a partout, hein. Ça c'est sûr. Hein. Peut-être certains pourraient raisonner, mais n'est-il pas suffisant ou préférable de convertir hommes et femmes et ensuite de leur mettre une Bible en main et ils sauront se débrouiller tout seuls et de leur donner quelques rudiments de piété, puis ensuite les recommander à la grâce de Dieu en disant, vous débrouillez tout seul, maintenant ça va bien comme ça. Hein. La Bible n'est-elle pas suffisante? Des chrétiens qui, finalement, se contentent de leur petite vie, tout simplement indépendamment des autres. C'est pourtant la façon d'agir dans notre monde, dans notre temps, je dirais même de réagir, de beaucoup de gens qui se réclament du christianisme, qui se réclament d'être chrétien, d'être croyant. Et à quoi sert l'Église? Eh oui, parce qu'il faut bien dire qu'il y a beaucoup de déçus de l'Église. Peut-être pas tant des déçus de Dieu, mais des déçus de l'Église, de ce que peut représenter la communauté. Beaucoup de déçus par tout ce qui se ressemble ou qui porte le nom d'Église. On est dans un monde où il y a une grande désaffection de la foi, ça vous le savez, je vous l'apprends pas. Hein, où le fait religieux est véritablement érodé, où on se dit, on a autre chose à faire. Finalement, que de penser à ceci et cela. Quand on sait que pendant des très 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 longtemps, très de longs siècles, les gens ont eu cette crainte respectueuse de Dieu. Quelquefois, c'était une peur épouvantable de Dieu, hein, ce qui ne doit pas être finalement. Alors, mais aujourd'hui, depuis, je dirais une centaine d'années, depuis finalement le siècle des Lumières, on s'est affranchi de beaucoup de choses, on se dit, mais ça sert à quoi tout cela? Et c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite. Il y a des heurts, il y a toutes sortes de choses qui s'y passent et qui peuvent décourager peut-être les plus déterminés, c'est certain. Nombre d'entre eux, de ceux qui pensent comme ça, se sont retirés dans la solitude en disant « Moi maintenant, ma relation c'est entre Dieu et moi et Dieu. Ça suffit. La Bible me suffit. Et puis c'est très bien de cette manière. » Et cet esprit qui pénètre toutes les couches de la société à différents niveaux, eh bien, nous amène à a proclamé l'indépendance, c'est-à-dire cette notion où nous pouvons nous autosuffire, croire, mais on se débrouille tout seul, faisant cavalier seul. On se dit, mais moi, vous savez, moi, personnellement, c'est très bien comme ça. Je peux me débrouiller tout seul, c'est très bien comme ça. Et en devenant de ce fait, en quelque sorte, des chrétiens Robinson. Vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe. Lui, il n'a pas été sur son île parce qu'il l'a voulu, il a été sur son île parce qu'on l'a débarqué. Par, les événements de la mer. Mais toujours est-il que on devient des Robinson Crusoe. Et vous m'avez souvent entendu dire, et je le répète encore aujourd'hui, que moi, dans l'Église, il y a beaucoup plus de croyants ou de chrétiens à l'extérieur qu'il y en a à l'intérieur. Ah, vous allez me dire, mais où vous avez été chercher ça? Eh bien, écoutez, quelquefois, il y a des questions que nous devons nous poser sur certaines choses, dans la manière peut-être d'envisager aussi la vie de l'Église, la manière de mener la communion fraternelle. Vous savez que Jésus nous a laissé des principes, hein. Il nous a quand même parlé de la communion fraternelle avec un mot qui résonne et qui fait suite, c'est l'amour fraternel. Alors c'est vrai qu'il y a eu des rochers, il y a eu des écueils, il y a eu des naufrages, il y a eu toutes sortes de choses. Et quelquefois même aussi, c'est venu des pasteurs, je dois le dire, malheureusement. Pas toujours de l'auditoire, mais ça peut venir aussi des dirigeants. Quand on est dirigeant, qu'on n'a pas été appelé par Dieu, bah, vous savez, ça ne peut pas donner quelque chose de bon, hein. Ça, c'est clair. Pardonnez-moi et excusez-moi ma franchise, mais vous avez l'habitude, hein. Et ça se fait dans l'enseignement, je tiens à vous le dire. Alors, des chrétiens Robinson, moi, je crois qu'il y en a beaucoup, qui en arrivent à nier l'utilité de se rattacher à une communauté locale. Et j'ai rencontré dans mon ministère des gens qui m'ont dit l'Église, non, merci, pas pour moi, hein. Et qu'ils ne sont peut-être pas prêts à remettre les pieds dans une église. Regardons les choses en face, et c'est ce que nous allons faire ce matin. Et c'est dommage, parce que quand même, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Vous avez lu avec moi quand il est dit, mais Moïse qui supplie son beau-père Jéthro, qui lui dit, mais viens avec nous, et nous te ferons du bien. La bénédiction que Dieu va donner, eh bien tu l'auras toi aussi. Et vous savez, il y a un psaume, je ne me souviens plus tellement du numéro de ce psaume, mais il lui dit que, qu'il est beau, qu'il est doux de voir des frères demeurer ensemble. Alors, demeurer ensemble, ça veut dire que, on se rencontre de temps en temps, hein, et on partage des choses, on chante des cantiques. Regardez, ce matin, qu'est-ce que nous avons fait? On a chanté des cantiques ensemble, on a commencé par prier. Ensuite, on a loué le Seigneur. On partage, eh bien, ces moments, mais ça s'appelle la communion fraternelle dans l'Église. Moi, l'Église, non, pas pour moi, merci. Il y a quelque chose que nous appons et que nous ne comprenons pas. Et croyez bien que je ne suis pas en train de faire la morale et que je suis en train de faire une réprimande à qui que ce soit ce matin, parce que finalement, si vous êtes là, j'ai rien à vous dire. C'est à ceux qui ne seraient pas là que j'aurai quelque chose à dire, mais ils ne sont pas là pour l'entendre. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas se tromper de direction. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant. Un rappel nécessaire. Dans le Nouveau Testament, l'Église est une nouveauté et une véritable révolution. L'Ancien Testament, on l'a dit, l'Assemblée des enfants du peuple d'Israël. Mais quand nous ouvrons les premières pages de l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus est en train de mettre, finalement, sur la route, ouvrir la carrière à un mouvement extraordinaire qui a traversé les siècles jusqu'à maintenant, et qui a été finalement un bouleversement du monde entier, le christianisme. Mais le christianisme, celui qui a pour fondement Jésus-Christ. Attention, c'est autre chose. Alors nous l'avons lu, et je le répète à dessein, Jésus dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors si on prend les choses à l'origine, il est facile de comprendre que l'ensemble des vrais chrétiens, des vrais croyants, excusez-moi du peu, hein, pour l'adjectif, mais je pense que quand même il faut le dire, des hommes et des femmes repentis, des hommes et des femmes convertis, non pas à un mouvement, mais à Jésus-Christ, nés de nouveau par l'effet et la puissance du Saint-Esprit, ce sont des hommes et des femmes qui sont venus des enfants de Dieu, ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. En grec, Ecclésia, c'est facile à comprendre, qui veut dire assemblée, et qui veut dire également église, là où on se réunit ensemble, où l'on met en commun, où l'on partage quelque chose. Je vous rappelle pour mémoire, ou je vous le dis tout simplement, que le mot église est cité plus de 108 fois dans le Nouveau Testament. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas une doctrine. Ça serait cité une ou deux fois, on pourrait dire, voilà, bon. Mais 108 fois dans le Nouveau Testament. L'avez-vous remarqué? On distingue trois catégories de christianisme. Et je voudrais faire une précision. Ce sont des aspects du christianisme que j'appellerais le christianisme du refus. Il y a le christianisme d'authenticité, qui est bâti sur la personne de Christ, par la foi dans sa personne, dans son sacrifice, et édifié sur le fondement aussi des apôtres. L'Église apostolique, naturellement. Il y a cet aspect du christianisme du refus, où on ne refuse peut-être pas de croire en Dieu, où on ne refuse pas ceci ou cela dans les grandes lignes, mais où l'on refuse la notion de l'Église elle-même. L'Église du refus. Je suis capable de me débrouiller tout seul et on peut toujours argumenter toutes sortes de prétextes et d'avancer toutes sortes d'excuses. Un des aspects de ce christianisme du refus, c'est le christianisme individualiste. On est dans une société d'individualité, d'individualisme. Dans le corps, ce que nous sommes, tous les éléments ou organes sont rassemblés pour fonctionner ensemble. Je suis venu en entier vous parler ce matin. D'accord? Vous auriez dit, il a oublié sa tête. Ça peut arriver. Ouais, mais je suis venu quand même en entier. Du moins, j'espère. Ça fonctionne ensemble. On peut vivre, certes, avec un rein en moins. On peut vivre avec un bras en moins. Avec une jambe en moins, et puis peut-être probablement d'autres organes, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. Mais est-ce là la normalité? Parce que Dieu nous a fait entièrement. Et il nous a composé harmonieusement. Est-ce là la normalité? Il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des choses qui font que ben, nous avons dû être, eh bien là, amputés de certains organes qui ne nous empêchent pas de vivre, mais ce n'est pas la normalité. Peut-on s'épanouir, et si nous mettons les choses sur un plan spirituel, peut-on s'épanouir ou prospérer privé d'un membre essentiel et d'un membre utile? Ça, c'est autre chose. Et je crois que, dans l'Église, chacun a sa place. Ouais. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a dit, tiens, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Ou celle-ci, ou celui-ci, viens et suis-moi. Parce que nous avons notre place. Nous avons un rôle à jouer. Alors il est évident ou il n'est pas évident, mais toujours est-il que nous sommes à la place où Dieu nous a, eh bien, tout simplement, disposé. Quand il y a quelque chose qui fait défaut, il y a un manque. Ouais. Et on pourrait toujours dire qu'il y a, finalement, de par la désertification des églises, un manque profond. L'Église pourrait être au-delà et au-deçà d'une certaine limite. Ah oui. Parce que je crois que nous avons tous à partager quelque chose. Vous savez, à l'un est donné 10 talents, à l'autre 5, et un, et le dernier à un. Mais peu importe. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et je pense que, à ce moment-là, c'est vrai dans un corps humain, mais c'est vrai aussi dans le corps qui est le corps de Christ, il y a un manque. Surtout quand la raison est une raison d'individualisme. Il y a un deuxième aspect, c'est le christianisme défaitiste. Ah oui, tout dépend de la manière dont on regarde les choses. Moi j'aime bien quelquefois nous entendons des louanges et des messages d'adoration le dimanche matin, où certains disent, eh bien Seigneur, ton église elle est belle. Eh bien moi je me dis, merci Seigneur. Parce que tant que on puisse voir de cette manière, mais on n'est pas, on sait très bien que finalement elle n'est pas parfaite cette église. Mais néanmoins, elle appartient à Jésus-Christ. Et de dire, Seigneur, ton église, elle n'est pas belle, eh bien, ça veut dire, Jésus, tu n'es pas beau. Ou tu as raté, finalement, quelque chose. Alors, je ne veux pas être un optimiste à tout craint, mais je ne veux pas non plus être un défaitiste. Parce que les deux extrêmes sont dangereuses. Ça, c'est clair. Et il y a cet aspect des choses de christianisme défaitiste. Qui ne voit que les imperfections de l'Église ? C'est terrible, mais je sais en tant que pasteur qu'il y a des imperfections dans l'Église. Je le sais. D'abord, je commence à les voir chez moi. Enfin, ça m'aide. C'est vrai. Et ça calme un peu les ardeurs. Parce que je me dis, oui, c'est vrai que mon frère, ma sœur, il est comme ça, mais Jésus nous a parlé d'une poutre et d'une paille, quelquefois pour nous renvoyer un petit peu à nous-mêmes et d'avoir un peu plus de modération. Alors c'est vrai qu'elle est loin d'être parfaite. Mais si je focalise uniquement sur les imperfections, alors à ce moment-là, je vais en voir de plus en plus. Ah, ça, c'est forcé. Hein. C'est forcé. Hein. Vous savez, quand on a cessé d'aimer un mari ou une femme, je parle du couple là, parce que c'est la même chose, hein, c'est le même rapport. Ben, quand on a cessé d'aimer, après l'avoir vu dans sa perfection, cette demoiselle ou ce monsieur, quand on ne voit que les défauts, on ne voit que les défauts. On oublie que finalement, il y a encore du bien, quelque part. Et Jésus nous dit, mais si ton œil, il est malade, eh ben tout sera noir. Tout sera mauvais, finalement. Alors, quelquefois, nous voyons que les imperfections, parce que nous sommes dans l'impossibilité d'y remédier. On se dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur ? Regarde, il y a ici, là, il y a ça, moralement, spirituellement, ceci et cela. Celui-ci ne marche pas, il recule. Vous savez que c'est un souci pour un pasteur, hein ? Mais moi, je regarde au Seigneur. Et je regarde qu'il y a toujours possibilité pour celui qui, quelquefois, marche en crabe, ou fait un petit peu de marche arrière, eh bien, je crois que le Seigneur, quand on prie pour la personne que l'on a à cœur, il est capable de remettre les choses dans la bonne direction. Vous savez, on peut être consolé quand on a vu un Jacob. Hein. Il était bien Jacob. Hein. Je peux vous dire que lui, pas mal. Et pourtant, c'est un homme que Dieu a choisi. Hein. Pour en arriver au terme de sa vie, après avoir fait les 1000 facéties et les 1000 pirouettes, d'en arriver, mais là, il avait 127 ans à l'époque. Hein. Il s'était amorti un peu. Alors, s'il faut attendre 127 ans... On n'est pas sorti, mais toujours est-il qu'il nous ait dit qu'il était devenu un adorateur et il adorait le Seigneur sur l'extrémité de son bateau. Merci Seigneur, tu y es arrivé. Si je vois les choses du mauvais côté, mais je dirais, mais celui-ci, il est fichu, il est terminé, c'est terminé, il n'y a rien à faire avec lui. Alors quelquefois, nous sommes dans l'impossibilité de remédier certaines choses ou l'inutilité de s'y engager dans l'Église en disant, mais qu'est-ce que je vais y faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Parmi les excuses avancées, on y trouve... Et je voudrais quand même le dire, parce que quelquefois, c'est ce que j'ai entendu, mais peu importe, hein, moi, ça ne me dérange pas. Ah, je ne vais pas à l'église parce qu'elle est trop petite. Je ne vais pas à l'église parce qu'elle est trop grande. Ben oui. Quand c'est trop petit. Quand c'est trop grand, ben oui, on s'est tellement délayé, on ne sait plus, on ne trouve plus notre place, etc., etc. Ce sont des choses, hein. On trouve aussi ce genre d'argument, ben, vous savez, moi, je vais à l'église, mais l'enseignement laisse à désirer, hein. Le pasteur, il aurait pu faire autre chose. Hein. Voilà. C'est trop superficiel, dira-t-on. C'est tout simple, c'est pour les petits-enfants, niveau école du dimanche. Ou alors c'est trop théologique. Je ne comprends rien quand le pasteur parle. Et pourtant, il parle en français. Hein. Alors c'est l'un ou l'autre, on ne sait pas. Et puis moi, je ne vais pas à l'église parce que moi, j'y ai trouvé de l'orgueil. Voilà. Voilà, on est là pour se montrer... Et puis, moi, je ne vais pas à l'église parce que je me suis aperçu qu'il y a de l'élitisme parmi les membres. Quand on est petit, mais on nous regarde de haut, vous savez. Hein. Faut être vraiment au top niveau. Parce qu'il y a ceci, il y a cela, et alors on me le dit. Et on me dit, mais t'es rien du tout, toi. Alors ça, l'élitisme, c'est pas bon non plus. Hein. Parce que, quelquefois, moi, je ne vais pas à l'église parce que le légalisme a remplacé la sanctification. Il y a une nuance à faire, hein. Ou alors, l'étroitesse d'esprit et de jugement. Alors, je ne vais plus à l'église. J'ai payé le prix. Je sais ce que ça veut dire. La normalisation, parce qu'il faut que tous nous soyons tous en alignement, que nous soyons tous pareils, coiffés de la même manière, et puis de ceci et cela. Écoutez, hein. Merci Seigneur de ce qu'il a fait la variété et la multiplicité dans la nature. Et dans l'Église, il y a de la multiplicité. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Il y a déjà des hommes et des femmes, c'est déjà pas mal. Et puis moi, je ne vais pas à l'Église parce qu'il y a de la jalousie. Ah, voilà. Et ça, vous savez que c'est un véritable cancer. Hein. La jalousie, la critique, la mauvaise langue. Parce qu'il y a des rivalités personnelles, etc., etc., etc. Je vais m'arrêter là parce que vous allez repartir complètement. C'est pas possible, hein. On y voit que le côté sombre, favorisant les prétextes de ne pas y aller, mes frères et sœurs. Moi, je ne vais pas à l'église. Parce que je vois des choses comme ça, je sais que je peux les voir. Et on est bien placé pour les voir. Mais j'y vais. Parce que je regarde au Seigneur, les yeux fixés sur Jésus, et lui, moi ce que je ne peux pas faire, lui c'est lui qui est capable de le faire. Et il est capable de remettre dans une bonne trajectoire celui qui dévie, celui qui s'est cassé le nez, qui est tombé dans une faute morale, et ceci et cela, mais c'est le Seigneur qui est capable de le faire. Et est-ce que toute l'Église doit être atteinte par finalement ce pessimisme? Il y en a un qui se frotte les mains en disant, mais regardez, elle est belle ton Église, hein. L'Église de Jésus-Christ, hein, dis donc. Tu te rends compte? Il y a un troisième aspect du christianisme. C'est le christianisme indifférentiste, l'indifférence. En d'autres termes, moi, j'en ai rien à faire. C'est un raisonnement invoqué puisque toutes les Églises sont imparfaites. J'ai regardé ici, là, pas les mêmes problèmes, mais c'est toujours le problème. Elles sont imparfaites. Alors, on en arrive à dire, elles se valent tous. Eh bien, puisqu'elles se valent tous, moi je vais nulle part, tout simplement. On trouvera toujours à redire dans l'une, on dira, est-ce que c'est la vérité? On dira, mais est-ce qu'il y a encore la vie de l'esprit? Moi je l'ai souvent entendu, on a dit, ben, l'Église elle est morte. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on appelle vivant? Si c'est pour marcher au plafond, si c'est pour se rouler par terre, si c'est pour faire des excentricités qui choquent, qui troublent la conscience des autres. Alors, c'est ça vivant? Non. Vivant aux yeux de Dieu, c'est véritablement avoir une vie intérieure. Une source et une ressource qui est féconde et qui déborde sur les autres, ça c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas chanter les cantiques avec enthousiasme, avec ferveur, avec zèle. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est certain. Hein. On dira de l'une ceci. On dira de l'autre, l'amour est inexistant. Ah oui. Mais j'ai toujours pensé, et j'ai toujours vérifié, surtout vérifié, que quand les gens disent il n'y a pas d'amour, ce sont des gens qui ne savent pas aimer. C'est toujours cela. Hein. Ce n'est pas les autres. Hein. On dira d'une autre... Il y a une carence d'activité. Moi, je vais à l'église, je suis assis sur une chaise et j'attends que ça se passe. Ben moi, je connais d'autres églises où vous allez voir que vous n'allez pas avoir le temps de voir le temps passer parce qu'il y a un tel activisme que les gens sont tous par terre, ils sont tous fatigués et épuisés. Alors, il y en a une, on se dit, il n'y a pas d'activité, et puis l'autre, c'est de l'activisme débordant qui met les gens complètement par terre. Et toutes les formes d'expression qui plaisent ou qui déplaisent. À travers les formes que nous connaissons, le chant, la musique, etc., etc., puis tous les à côté, tout ce qui va avec, qui ont leur raison d'être. Mais si tout cela n'est pas spirituel, ben ça ne sert à rien. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas porteur de fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la tempérance, et puis tout le reste, vous le vérifierez, eh bien, ça ne sert à rien, parce que tout, faites tout de bon cœur pour la gloire de Dieu, tout simplement. Brièvement, n'oublions pas quatre choses. C'est le Saint-Esprit qui a constitué l'Église de Jésus-Christ. Et là, je voudrais quand même prendre des textes bibliques. Dans Actes 2, chapitres 42 et 47, il nous est dit... Que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, 1. Dans la communion fraternelle, 2. Dans la fraction du pain et des prières, la Sainte-Cène, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Verset 47. Il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Si vous voulez que l'église se remplisse, il faut que ce soit une église joyeuse, heureuse, et une église qui aime le Seigneur. Si les gens viennent de l'extérieur et entendent des critiques, eh bien, il faut mieux qu'ils restent à l'extérieur. C'est pas la peine. Ils ont déjà leur compte. Il faut qu'il y ait de la qualité dans l'église. Alors, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, ça c'est la meilleure évangélisation. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais, Seigneur, c'est ce que nous te demandons dans nos prières. Ajoute chaque jour dans l'église ceux qui sont sauvés, et il les connaît, hein, ça c'est sûr. Le but de l'Esprit de Dieu n'est pas de laisser les croyants isolés, mais de les unir dans un corps visible, cependant spirituel. C'est le corps de Christ. Et le corps de Christ nous est défini encore à travers un autre texte, dans 1 Corinthiens, chapitre 12. On va le voir tout de suite. Chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 13. Il est simplement rappelé, ou même verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, et c'est le verset que je voudrais placer devant vous, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors il y a une église, d'accord ? Qui se décline sous différentes formes, ça c'est certain, mais le fond est toujours le même. C'est Jésus-Christ le chef de l'église. Et sa parole est la raison de notre foi. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Alors après, on pourra toujours y mettre de l'humain, du religieux, mais ça n'a aucune valeur parce que nous sortons finalement du cadre. La deuxième chose, c'est que les apôtres, selon le modèle du Nouveau Testament, ont travaillé à rassembler, oui, à édifier, à enseigner l'église locale. Refuser ou mépriser de faire partie d'une église locale, c'est s'estimer plus spirituel que les apôtres. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Les Robinson Crusoe, oui. Et c'est ça, justement, le gros problème. Parce que, finalement, ça veut dire que moi, j'ai rien à faire de ce qui nous est enseigné dans la parole. Je fais comme il me plaît. Et c'est quelque chose qui est quand même en dehors, finalement, du contexte. La troisième chose qui est importante à rappeler, c'est que les chrétiens ont besoin d'une église locale pour croître et s'édifier. Dixit l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4, où nous avons finalement, eh bien là, l'exposé de ce qui est nécessaire pour que nous puissions grandir. Éphésiens 4, 12, 13, alors que je retrouve simplement, il nous est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ce sont les dons, les ministères dons, ça, hein, d'accord ? Pour le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et tout est ramené à Jésus. Je voudrais quand même vous dire, si vous l'aviez peut-être oublié ou vous ne l'aviez jamais su, le chef de l'église, ce n'est pas le pasteur. Hein ? Je vous l'ai déjà dit, hein ? C'est pas moi. Hein ? C'est pas moi. Moi, je suis dépendant du Seigneur autant que cela m'est donné de le faire. Mais le chef à chacun, c'est Jésus-Christ. D'accord ? Parce que quelquefois, on a tellement mis les pasteurs sur un piédestal qu'ils se sont cassés. Hein. On en a fait des super hommes, on en a fait des super stars, mais on est comme les autres, d'accord ? Parce que ça, il faut que ça soit compris. Hein. Parce que ce que l'on prend, finalement, à Christ pour le donner à un homme, c'est une forme de vol. Hein. Eh oui ? Tout pour Jésus, pas pour l'homme. Il faut le dire. C'est très simple hein, ce matin. Ça va, c'est pas trop théologique. Le niveau n'est pas... Parce que je peux descendre, hein, je peux me mettre un peu plus bas. Si c'est une question de géographie. Mais, bon. Donc les chrétiens ont besoin d'une église pour croître et s'édifier. La communion fraternelle joue un rôle prépondérant pour grandir spirituellement. Et il n'y a pas que le pasteur qui est chargé de cette mission. Les uns et les autres, nous-mêmes, en nous faisant du bien, comme Moïse le disait à son beau-père Jéthro, viens, suis-nous, parce que chacun d'entre nous, nous pouvons être les Barnabas, des fils d'exhortation pour nous encourager les uns les autres, pour nous avertir les uns les autres, pour nous réconforter les uns les autres, pour nous consoler les uns les autres. Si vous êtes tout seul, vous n'entendrez pas grand-chose. Mais on est ensemble pour se faire du bien et se dire, eh bien voilà, nous marchons dans la même direction et nous nous donnons la main d'association et nous allons nous bénir les uns les autres. Pas faire le contraire. C'est terrible. C'est terrible de voir une église où il y a une autodestruction. C'est pas normal. Vous savez comment ça s'appelle? La division. C'est terrible. Et nous sommes à l'école pour nous apprendre à nous aimer, comme Jésus l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Il n'est pas nouveau, parce que depuis toujours ça a été comme ça, mais je vous rappelle, un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ainsi, si vous vous aimez les uns les autres, que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et imaginez-vous, le monde est plié en deux quand il voit, ah les chrétiens, ils sont en train de se critiquer les uns les autres, ils sont en train de se faire la guerre. Mais c'est pas normal. Je pense que ça va pas inciter les gens à dire, ah ben tiens, on va aller à l'église parce que... Il y a des choses qui sont à dire quelquefois. Confronter avec d'autres, parce que dans une église, je vous l'ai dit, heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, mais confronter avec d'autres, de toutes conditions, de tout âge, tout niveau social et intellectuel, pour se développer dans le respect de la liberté de chacun. Et je voudrais dire une chose, c'est que l'église, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et il ne faut pas confondre les deux mots, une église locale et une église bocale. Parce qu'il n'y a pas de couvercle chez nous. Voilà. L'église, elle est ouverte. Excusez-moi, hein, mais c'est vrai. On n'est pas une secte. C'est ça ce que je veux dire. L'église est accueillante. L'église offre le salut. Et les gens qui rentrent dans l'église doivent y trouver un climat d'amour et de paix. Ça, c'est important. Je poursuis. L'église a besoin de chacun pour être ce qu'elle doit être. Non pas par le décret d'un homme ou d'un mouvement, mais à travers ce que la parole de Dieu nous dit de la volonté de Jésus-Christ. Chaque corps a besoin de tous les organes et membres pour son fonctionnement équilibré, et une église doit se caractériser par son équilibre, en sachant que chacun y a sa place et son rôle, à travers des dons, à travers des talents, à travers des aptitudes, à travers des capacités. On n'est pas tous pareils, et heureusement. Et on n'a pas besoin de convoiter ou de désirer le don ou le talent de l'autre. Cherchons d'abord ce que Dieu nous a donné et la part qu'il nous a donnée. Et c'est comme ça que nous serons heureux. Et quelquefois, il y a tant de jalousie. C'est parce que je vois ce que l'autre a. Mais j'ai pas besoin de voir ce qu'il a. Je peux tout simplement dire merci Seigneur de lui avoir donné un don. Mais si je dis Seigneur, tu m'as oublié dans la distribution, c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui... Ça, c'est aberrant. Excusez-moi, c'est un état d'esprit qui ne doit... finalement, et bien avoir cours. L'instabilité et l'insatisfaction est une marque d'infantilisme. Une église naine, une église qui ne grandit pas, comme des enfants dans la cour de récréation. Ouais. L'immaturité spirituelle. Écoutez, c'est encore Paul qui dit cela, parce qu'il l'avait remarqué chez les Philippiens, et il dira cette parole au chapitre 2, quand il écrit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts... L'Église, c'est la mise en commun des intérêts, du partage. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Restons sur la parole, mes frères et sœurs. Et là, on va grandir. On va se développer. Ouais, avec le bon sens et l'intelligence. Sanctifier l'intelligence spirituelle. Les chrétiens qui sont faits en Jésus-Christ, les hommes faits, les femmes faits en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire, ne viennent à l'église seulement pour recevoir. Je ne sais pas ce matin, si vous êtes venu, dans quelle intention. Seigneur, je viens pour recevoir. Il y a une part de vrai, c'est vrai, mais je viens aussi à l'église pour donner et pour servir, pour partager, prendre sa place humblement dans le corps de Christ est un privilège dans la mesure où nous nous soumettons les uns les autres dans la charité. Ne pas jouer les gros bras en disant « mais vous savez, moi je suis ceci, je suis cela, etc. etc. » Personne n'a la science infuse. Restons modestes et humbles, à l'image des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme nous l'avons cité il y a un instant, où il nous est dit « je suis doux et humble de cœur », nous dit Jésus. Alors quand on a compris ça, on a tout compris. C'est vrai. Église ou l'église idéale existe-t-elle? Alors là, vous allez peut-être pouvoir me répondre maintenant. Soyons réalistes et bibliques. L'église parfaite, où est-elle? Que nous montre le Nouveau Testament de la communauté des chrétiens du premier siècle? Parce que si on avait quand même quelque chose sous les yeux, c'est les épîtres qui ont été écrites par les uns et par les autres. Vous voyez Paul très souvent dire à l'église de Corinthe, à l'église de ceci, à l'église de cela. C'est pas aux Robinson Crusoe qui sont à Corinthe. Non, c'est véritablement nommé d'une manière tout à fait particulière. Alors il y a des lettres qui ont été écrites, les épîtres. À Rome, la lettre aux Romains, vous allez voir qu'elle n'est pas parfaite. Il y a des légalistes et des libertaires, chapitre 14 et chapitre 15. Paul a dû écrire en disant « arrêtez, ça va, on est en Christ. » Et c'est pour Christ, c'est pour vous que Christ est mort. À Corinthe, Paul écrit aussi une lettre, il est opposé à quatre fractions opposées qui s'affrontent. Il y a les Pauliniens, il y a les gens qui sont pour Apollos, il y a les gens qui sont pour Céphas, et puis ceci et cela, et puis il y a les gens qui sont pour Christ, ils sont au-dessus de tout cela. Donc, et en plus, il est obligé de corriger des erreurs doctrinales et des ordres moraux à Corinthe. Il y a quelque chose. Quand il écrit aux Éphésiens, il est dénoncé qu'un chrétien ne vole pas, ne ment pas, et ne s'enivre pas. C'est un peu fort quand même, ça soit écrit dans la Bible. Et bien pourtant ça existait. L'Église est-elle parfaite? Au moins il y a quelqu'un qui a compris. À Philippe, Paul combat la vaine gloire et les querelles entre femmes. Il y en a une qui s'appelle Évodie et l'autre Saint-Tiche. Elle se crêpe le chignon. Vous l'avez lu ça, hein? Eh oui. Et pourtant, ils nous ont dit, il est dit à ce moment-là, de faire quelque chose pour qu'elles puissent se raccorder les unes et les autres, parce qu'elles ont combattu dans le grand combat de la foi. Et elles en ont fini à un moment donné à ne plus pouvoir s'accepter l'une l'autre. C'est terrible, l'Église n'est pas parfaite. À Colosse, des gens sèment des idées philosophiques saugrenues. Des chrétiens mystiques méprisent leurs frères et leurs sœurs. À Thessalonique, il y a des paresseux, oui c'est écrit aussi, qui refusent de travailler et qui se font entretenir par les autres chrétiens en disant « moi je travaille pas, je suis en chômage. » Voilà, et vous me donnez tout ce que j'ai besoin pour vivre. Ça existait, l'Église n'est pas parfaite. Il y a de la malhonnêteté et des désordres immoraux également dans cette Église de Thessalonique. Dans l'Apocalypse, il y a un descriptif qui est dressé des défauts et des imperfections de l'Église du temps et de tous les temps. À Éphèse, il est parlé de la carence notoire d'un manque d'amour. Tu as abandonné ton premier amour, dit Dieu. Dans l'Église de Pergame, il est question de la faiblesse et des tentations pour aller vers les fausses doctrines. Eh oui, c'est écrit. Et des choses occultes, c'est signalé. À Thyatire, les chrétiens sont séduits par une femme qui s'appelle, soi-disant prophétesse, qui se nomme prophétesse, et qui s'appelle Jézabel. Eh oui, il tombe dans le piège. À Sardes, c'est l'illusion d'être vivant, et Dieu lui dit, bah, tu es une église morte. Parce que c'est Dieu qui le dit, c'est pas les hommes. À la Odyssée, cette église est caractérisée par sa mondanité, par l'amour du monde. Toutes sont loin de l'idéal. Et pourtant, toutes ces imperfections n'ont pas retenu l'apôtre Paul et les autres de s'adresser à elle comme l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. L'édifice de Dieu, la maison de Dieu, qui est le colonne et l'appui de la vérité Et encore mieux, Paul la présentera à l'Église comme la fiancée et l'épouse qui doit être présentée sans tache et irrépréhensible. Alors quand on regarde l'Église ici, on se dit, Seigneur, comment tu vas faire, hein? Et pourtant, c'est ça ce qui est écrit dans notre Bible. Et heureusement qu'on a ça, hein? Parce qu'on ne saurait pas comment faire. On dirait, et c'est comme ça qu'elle a subsisté. Non pas parce qu'il y avait du mal en elle, parce qu'il y avait des imperfections, il y avait toutes sortes de choses, mais c'est que le Seigneur est au milieu d'elle, et il travaille par le Saint-Esprit pour que nous puissions eh bien évoluer, et faire en sorte que nous n'en restions pas, finalement, à cette situation, qui n'est jamais un témoignage. Jamais les chrétiens d'hier n'ont été encouragés à rester dehors, parce que l'Église était imparfaite. Et quand on est venu pour la première fois dans l'église, dans notre église, la nôtre, hein, ici ou ailleurs, tout était beau, hein. Ah! Moi, je me souviens, je me suis converti, j'avais 20 ans. Je me dis, mais tout est formidable. Les gens sont magnifiques. Ils sont merveilleux. C'est extraordinaire. Après, j'étais un jeune chrétien, je me suis aperçu que, Et puis après, je suis devenu pasteur. Alors là, Et je suis resté pasteur quand même parce que je ne renonce pas, hein. Eh oui. On ne baisse pas les bras, mes frères et sœurs. On ne baisse pas les bras. On regarde au Seigneur, qui lui est capable de sanctifier son Église. Alors tout ça, pour vous dire que nous sommes des êtres perfectibles. C'est-à-dire que nous sommes en voie et sur le chemin de la perfection. Mais n'allons pas en penser que nous sommes arrivés, hein, parce que là c'est terrible. Je termine. La conclusion... c'est qu'il y a un grand défi à relever dans notre monde où il y a tant de dispersion et les gens disent, moi, l'Église, non merci, ça ne m'intéresse pas. Je crois que le grand défi, c'est de montrer que l'Église de Jésus-Christ, malgré son humanité, je resterai simplement sur ce mot, est encore et toujours la démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu en faisant des pécheurs, dans la destination qui nous revient aux uns et aux autres, des saints. C'est ça, justement, le but. On m'a offert un beau poème que je voudrais partager avec vous. Je le mettrai en affiche tout à l'heure. Un beau poème. Il est beau. Ça résume un peu ce que nous avons dit. Le titre, c'est « Je rêve d'une église vivante ». Pas d'une église parfaite, mais « Je rêve d'une église vivante ». Parce que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein. Et voilà comment les choses sont écrites. Une prière. Père, je rêve d'une église éclatante, non pas triomphante ou écrasante, mais d'une église florissante, avenante, accueillante et servante. Une église qui témoigne de toi avec zèle et foi, où chacun te porte à l'envie comme un trésor de vie. Je rêve d'une église visionnaire, non pour séduire ou pour plaire, mais pour accomplir son destin missionnaire, conduire chaque être humain à plus d'humanité, à une véritable solidarité et à une heureuse convivialité. Je rêve d'une église universelle, non partisane ou confessionnelle, où chacun campe sur des positions personnelles, mais d'une église à l'écoute de ta parole, qui fortifie et console, d'une église où chaque être est tourné vers toi, dans la simplicité d'un cœur aimant et plein de foi. Je rêve d'une église ouverte, non pas d'une chapelle déserte, mais d'une communauté de dessertes, qui accueille les petits et les grands, les parents et les enfants, les bien portants comme les mourants. Je rêve d'une église généreuse, non pas orgueilleuse et dispendieuse, mais d'une assemblée miséricordieuse qui partage ses ressources avec les démunis, les oubliés et les meurtris. Je rêve d'une église sans misère, non d'une institution austère à l'enseignement lapidaire, ni d'un attroupement éphémère, mais d'une église prospère qui avance et entraîne dans son sillage toutes les âmes du grand village d'un monde plus sage. Je rêve d'une église joyeuse, follement amoureuse, épanouie et heureuse, et toujours soucieuse de s'ouvrir et s'offrir de bénir et de guérir. Enfin, je rêve d'une église compatissante, donc d'une autorité suffisante, mais d'une fraternité bienveillante où la paix et le bonheur se respirent à toute heure, comme un parfum de fleurs pour toi, notre unique Seigneur. Je rêve. Je rêve. Mais nous ne rêvons pas, mes frères et sœurs, si nous regardons à Jésus. Je rêve. Il est ajouté par le poète. Mais, Seigneur, n'est-ce pas ton rêve aussi? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse ce matin, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous ne mesurerons jamais suffisamment, jamais assez, Seigneur, la grâce qui nous a été faite les uns et les autres de connaître Jésus-Christ. Le pouvoir, en effet, Seigneur, était rendu capable de croire à cette bonne nouvelle qui est le message de l'Évangile. Merci parce que tu nous as donné une maison, Seigneur. Nous étions auparavant des orphelins. Nous étions des étrangers, nous le sommes encore, c'est vrai, Seigneur, sur cette terre. Mais néanmoins, tu nous as donné une maison. Une maison, Seigneur, un lieu habité où nous nous sentons bien. Ça s'appelle tout simplement ton Église. C'est vrai, Seigneur. Et cette Église, Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas, en effet, un édifice majestueux, tout cela. Ça n'a pas de raison d'être. Mais, Seigneur, là où il y a de la chaleur, là où il y a de l'amour, là où il y a la main tendue, là où il y a des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des exhortations, de la compassion, Seigneur, de la consolation, Seigneur, c'est ça ta maison. Alors, nous croyons, Père éternel, que lorsque tu as appelé, en effet, à la suite du sacrifice de Jésus-Christ à faire naître une nouvelle humanité, c'est-à-dire l'Église, les chrétiens, les disciples de Jésus, tu savais très bien comment ça allait se passer. Tu savais très bien, Seigneur, que tu n'étais pas venu installer des anges sur la terre, mais que tu avais pris des pécheurs, et que ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces personnes, Seigneur, de tout âge, eh bien, étaient encore empreints de toute cette humanité pécheresse, mais Seigneur, avec un but, avec une direction, avec une orientation, avec une lumière, avec une lampe qui brûle à nos pieds, qui éclaire notre sentier, eh bien, Seigneur, c'était de pouvoir tout simplement faire de ces hommes, de ces femmes, tout simplement les témoins, le sel de la terre, la lumière du monde, et ainsi de pouvoir dire, eh bien, l'Église de Jésus-Christ, elle existe. Ce n'est pas une Église multidiniste, mais c'est une Église, Seigneur, où chacun d'entre nous, nous avons notre part, où nous avons notre rôle, où nous avons, Seigneur, notre responsabilité. C'est un devoir, mais c'est aussi un privilège. Alors, Seigneur, nous voulons dire, eh bien, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que toi, tu n'as pas rêvé lorsque tu as jeté dans la carrière, eh bien, tout simplement, l'Église. Mais tu savais, Seigneur, que cette Église était perfectible. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier pour tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui sont aujourd'hui dans la gloire et qui voient, en effet, la gloire de Christ et la gloire de Dieu, parce qu'ils ont triomphé. Ils ont triomphé de la terre, ils ont triomphé du monde, ils ont triomphé de leur propre nature, de leur propre humanité. Et nous voulons te rendre grâce. Et c'est ça l'Église. Et c'est pourquoi nous pouvons te dire, eh bien Seigneur, t'as raison de nous dire, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Alors Seigneur, tu répands ta grâce sur ton peuple maintenant. Tu nous fais grâce et tu nous donnes d'avoir une vision maintenant, qui est la tienne. La vision, Seigneur, qui est celle en pleine conformité, Seigneur, avec tes enseignements et pourquoi Jésus, et ce pourquoi Jésus est mort, pour apporter, Seigneur, à ce qui était mort, eh bien la vie. Et la vie éternelle. Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Amen.